dire pourquoi ce mai. Eh bien, écoutez, c'est le journal, en tout cas, de Margot Delpierre. Tout de suite, bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Reportage dans le sud d'Israël auprès d'une famille de Bédouins. Une petite fille a été blessée pendant l'attaque iranienne rencontre.
Nous ferons le point sur les enjeux du sommet européen aujourd'hui sur le décrochage industriel de l'Union européenne face à la Chine et aux États-Unis.
Le point aussi sur les retombées économiques des Jeux olympiques de Paris à 100 jours des JO. Que peut-on en attendre ? Dans les prochains jours, les États-Unis imposeront de nouvelles sanctions contre l'Iran et ses programmes de drones et de missiles sont visés, a expliqué hier la Maison-Blanche après l'attaque iranienne contre Israël le week-end dernier. Téhéran en a lancé des centaines. La quasi-totalité ont été détruits avant de toucher le sol israélien, assure le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et si le nombre de blessés est limité, la colère monte chez les Bédouins arabes. Ils sont des dizaines de milliers à vivre dans des villages non reconnus par l'État d'Israël, qui leur interdit toute nouvelle construction, y compris celle d'abris anti-bombes. Samedi dernier, Amina, une enfant bédouine, a été gravement blessée par un éclat de missile ou de drone. Sa famille ne le sait pas précisément. Ajra Mohamed a rencontré ses proches dans le désert du Negev.
Le père d'Amina, Mohamed Hassouna, et l'un de ses fils nous emmènent voir l'énorme trou dans le toit en tôle de leur maison.
C'est rentré par là.
Elle a eu très peur des missiles.
Elle était debout ici, elle a été touchée à la tête et elle est tombée.
La fillette de 7 ans est toujours hospitalisée en soins intensifs, inconsciente. Quant à ses 13 frères et sœurs, ils restent traumatisés par cette nuit où le ciel semblait exploser au-dessus de leur tête.
Les enfants ont peur de revenir, ils ont peur des missiles. On n'a pas d'abri où aller, c'est soit la voiture, soit la maison. Et si je veux en construire un, c'est interdit, ils le détruiront.
Dans le Negev, de nombreux villages sont ainsi privés d'abri anti-bombes, privés de sécurité, rappelle Majel El Awashla, coordinateur d'une association de défense de Bédouins.
Les autorités affirment que ce terrain n'appartient à aucune juridiction, seulement à l'État d'Israël. Mais nous étions là avant lui, et regardez où nous vivons, nous n'avons aucun service. Pas d'abri, pas de réseau d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure.
Un sentiment d'injustice aussi pour Mohamed Hassouna. Depuis samedi dernier, aucun représentant officiel de l'État n'est venu le voir, déplore-t-il. Les militaires sont bien passés chez lui, oui, mais seulement pour récupérer les débris des missiles et drones tombés au sol.
Ajra Mohamed avec Sandrine Malon et Alexandra Vardy. L'Union européenne aussi envisage d'élargir ses sanctions contre l'Iran. Les 27 réunis pour un court sommet aujourd'hui sur un tout autre sujet, économique cette fois. Ils réfléchiront aux mesures concrètes à prendre pour éviter le décrochage industriel de l'Europe face à la Chine et aux États-Unis. Décrochage déjà en cours selon l'ancien chef du gouvernement italien Enrico Letta qui leur présentera son rapport sur l'avenir du marché unique. Et ces pistes de réflexion pour soutenir nos transitions écologiques et numériques. À Bruxelles, Angélique Boin.
Ce marché de 450 millions de consommateurs, c'est notre bien le plus précieux, rappelle Enrico Letta. Mais il est à la traîne, ajoute-t-il, en rappelant que le PIB américain a augmenté de 60% en 30 ans, deux fois plus vite que celui des Européens. Alors comment soutenir les transitions vertes, numériques et technologiques de nos industries ? Plusieurs pistes sont sur la table. Alléger les charges administratives des entreprises, PME en tête. Cibler les aides publiques sur les secteurs les plus stratégiques, comme l'énergie, les semi-conducteurs ou la défense. Et mieux se prémunir contre les pratiques déloyales de nos concurrents. Dans son rapport, Enrico Letta insiste aussi sur la nécessité de mieux mobiliser l'épargne des Européens, 33 000 milliards d'euros, dont 300 qui chaque année filent aux États-Unis. On finance l'économie américaine, se désole un diplomate. Créer une union de l'épargne et des investissements permettrait de mobiliser les fonds privés, ce qui implique une harmonisation au moins partielle de notre fiscalité, du droit des faillites et une supervision commune. Vaste chantier auquel les 27 ont décidé de s'atteler. Certains États membres, France et Allemagne, poussent également pour lancer un produit d'épargne pan-européen attractif. L'option d'un nouvel emprunt commun divise toujours autant, mais n'est pas non plus écartée.
Aung San Suu Kyi a été sortie de sa cellule, a appris l'AFP. L'ancienne chef du gouvernement birman a été transférée dans une maison, sans plus de précision pour le moment. Par ailleurs, la junte au pouvoir annonce l'amnistie de plus de 3000 prisonniers à l'occasion du nouvel an birman.
6h34 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. L'île d'Oléron remporte une nouvelle victoire contre Airbnb.
La plateforme de location a été condamnée à payer plus d'1 300 000 euros pour manquement à l'obligation de collecte de la taxe de séjour en 2022. Des manquements répétés, c'est pourquoi l'amende est lourde. La communauté de communes avait déjà obtenu une condamnation d'Airbnb pour l'année 2021. La plateforme a fait appel. D'autres sites, Le Bon Coin ou encore Booking, récemment ont été condamnés. Pour l'avocat de la collectivité, maître Jonathan Belaïche, c'est une grande victoire qui en appelle d'autres.
On a déjà obtenu une condamnation pour l'année 2021. C'était déjà une première grosse victoire au niveau symbolique. Là, c'est une victoire supplémentaire. On a eu d'autres victoires contre les plateformes Le Bon Coin et Booking, où pour le coup, actuellement, le processus est en cours, vu qu'on les a fait condamner à nous transmettre les données permettant de connaître le montant exact de la taxe de séjour qui aurait dû être collectée. On ira au bout de toutes les procédures judiciaires possibles pour que la collectivité puisse obtenir ce qui lui est dû et pour qu'on puisse faire sanctionner des agissements qui sont totalement incroyables. On parle quand même d'un géant mondial du tourisme qui ne paye pas correctement sa taxe de séjour à une petite collectivité. Ça, c'est pas admissible. C'est très courageux la démarche qui a été entreprise par Oléron et je pense que ça va servir d'exemple pour toutes les autres collectivités de pouvoir voir qu'en fait, on est capable, en utilisant les voies de droit, de faire respecter les règles, même quand on a affaire en face de nous à un géant.
L'avocat Jonathan Belaïche, des propos recueillis par France Bleu La Rochelle. J-100 avant les Jeux Olympiques de Paris, nous y reviendrons d'ailleurs dans nos rendez-vous ce matin. La flamme a été allumée hier à Olympie en Grèce. Au-delà de l'aspect sportif, quel coût pour quelles retombées économiques? Le coût des Jeux est pour l'instant estimé à presque 9 milliards d'euros, financé moitié-moitié sur fonds publics et fonds privés. Et sur son impact, les estimations menées au début de la candidature parisienne les évaluer entre 5 et 10 milliards, chiffre à affiner par la suite. Mais pour Michael Aloisio, directeur général délégué de Paris 2024, l'association qui gère l'organisation, les retombées ne peuvent être que positives.
Cette dépense sera toujours inférieure à l'impact économique pour le pays. Moi, j'ai eu l'occasion d'être à Londres dans le cadre de l'étude d'opportunité avant qu'on s'engage sur Paris 24. Je vais regarder un peu sur la partie tourisme. C'était intéressant, surtout quand on connaît le poids de l'économie du tourisme dans notre pays. À Londres, 2 ans après les Jeux, il continuait à faire plus 8% de visiteurs et plus 7% de dépenses de ces visiteurs. Donc c'était assez intéressant aussi de chercher à mesurer l'impact 2 ans après. Même si vous prenez la fourchette basse, l'étude d'impact économique à 5 milliards, c'est extrêmement positif.
À la fois assez réduit par rapport au PIB de la France.
Oui, mais enfin, les Jeux n'ont pas vocation à changer le PIB. Il faut regarder dans l'étude d'impact, c'est ce que ça nous coûte par rapport à ce que ça nous rapporte. Des Jeux qui sont l'occasion d'accélérer des changements pour un territoire qui en a besoin, la Seine-Saint-Denis. Et là, on ne paye pas le coût des Jeux. On paye du logement, une rénovation d'un équipement sportif et les Jeux ont un côté accélérateur. Et ensuite, on a ce que ça apporte au pays, en mobilisation nationale, en fierté, en émotion, mais aussi en rayonnement et en attractivité. D'ailleurs, c'était intéressant à Londres. Les entreprises qui ont organisé les Jeux trustent les marchés des grands événements sportifs internationaux à l'issue des Jeux. Donc, il y avait toute une génération d'entreprises britanniques qui, dans l'élan des Jeux de 2012, remportaient tous les marchés des grands événements sportifs internationaux, des Jeux d'hiver, des Jeux d'été, de la Coupe du Monde de foot. Voilà, c'est aussi tout ça les Jeux. C'est faire rayonner notre pays. Après, les Jeux n'ont pas vocation à changer le PIB.
Michael Aloisio, directeur général délégué de Paris 2024, interrogé par Marie Viennot. Quelles ont été en comparaison les retombées pour la ville de Londres? On y reviendra à 7h30 dans le journal de l'économie. Une journée encore instable selon Météo France avec des averses qui vont traverser le pays. 9 degrés à Lille cet après-midi, 11 à Paris, jusqu'à 17 à Marseille.